Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
On dira un mot si on a le temps aussi de la nationalisation d'EDF, parce que les salariés actionnaires sont pas contents. Et non, il y a 17 ans, ils ont payé 17,03€ l'action. Non, 15,03€. Et ils considèrent que 12€, c'est pas normal. Voilà. Donc, ils attaquent sur tous les fronts pour essayer d'obtenir 15,03€ contre les 12€, qui est le montant retenu dans l'OPA lancé par le gouvernement. Philippe Askenazy, bonjour.
Bonjour.
Économiste au CNRS. Vous avez publié Partager les richesses chez Odile Jacob. Denis Père, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Président de Nature and People First, auteur du contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Et Jean-Pierre Petit, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Je voudrais saluer deux auditeurs qui m'ont écrit après l'émission d'hier. Hugues, Jean-Christophe, qui m'écrit « Très bonne émission ». Et puis Boris, qui me dit « Écoutez, ce matin, l'émission sur les retraites m'a fait changer d'avis ».
Ah oui. Ah.
Voilà. Et c'est vrai qu'on avait un regard croisé entre Benjamin Coria notamment et Christian Saint-Etienne qui a publié un article absolument fascinant dans les Échos mardi dernier qui nous a vraiment fait monter d'un étage sur les réflexions qu'on peut mener autour de la réforme des retraites pour ou contre la borne d'âge. Non, c'est nettement plus complexe, mais il y a des choses à faire intelligentes. Le plan sobriété, jeudi, on passe l'hiver et on verra. Denis Père.
Oui, alors le plan sobriété, moi ça me rappelle ma jeunesse, comme à vous tous, je pense à la chasse au gaspillage.
Il y avait aussi le dragon dans sa cage.
Voilà, le dragon dans sa cage, absolument. Mais c'est nécessaire, il faut le faire. C'est fait de façon, je pense, intelligente, c'est fait de façon non coercitive pour l'instant.
C'est vrai. Alors que c'était coercitif, la chasse au gaspillage.
C'était
hein.
Un peu plus coercitif, effectivement, de mémoire. Enfin, en 79, peut-être pas le premier choc pétrolier. Et puis c'est fait aussi de façon. Enfin, on n'est pas dans la chasse aux riches, à faire payer les riches, enfin, pour l'instant en tout cas aussi. On est plus. L'État même cherche à donner l'exemple, hein, ce qui est bien. Sur un sujet comme celui-là, où l'État est certainement pas exemplaire, pas plus que les autres. Donc c'est plutôt bien. Ça met surtout en évidence, effectivement, les fragilités de l'Europe en matière énergétique, en matière de politique énergétique. Bah, l'Allemagne, bien sûr, on va en reparler, mais l'aveuglement complet de l'Allemagne hein, sur ce sujet, malgré les mises en garde de Trump en 2018 à l'ONU, qui disait aux Allemands, vous êtes dans la main de Poutine, et les diplomates allemands en face qui ricanaient. Enfin bon, on voit bien que malheureusement, on ne peut pas aimer Trump, mais il avait parfaitement raison. Et puis nos propres fragilités françaises. On aurait plus investi dans le nucléaire, évidemment, on n'en serait pas là. On aurait plus investi dans les renouvelables, on n'en serait pas là non plus. On aurait plus d'éoliennes en mer, on passerait un hiver beaucoup plus tranquille. On vient juste d'inaugurer le premier parc éolien en mer à Saint-Nazaire, avec 80 malheureuses éoliennes en mer, qui coûtent que 44€ du mégawatt-heure, il faut le rappeler, qui ont des facteurs de charge qui sont très élevés, hein, ça fonctionne pendant 45 à 55% du temps. Alors, il y a de l'intermittence, bien sûr, mais c'est beaucoup moins cher que le nouveau nucléaire, qui est à 120€ du mégawatt-heure. Donc, c'est pas si cher que ça, et on a mis des années. C'est un parc qui a mis 15 ans à sortir. La petite Belgique qui a 60 km de côte a sorti 400 éoliennes en mer. Nous, on a 2500 km de côte, on en a sorti malheureusement que 80. Il y en a 6000 en Europe des éoliennes en mer. Donc on n'a pas assez avancé sur le nucléaire, on n'a pas assez avancé sur le renouvelable non plus. Donc la loi qui est en préparation sur l'accélération des énergies renouvelables, elle est très bienvenue, bien sûr, elle est essentielle. Donc on commence à corriger nos fragilités, mais on va le payer pendant un moment, parce que il faut du temps pour déployer des éoliennes, déployer des moyens pour gérer l'intermittence, pour évidemment construire des centrales nucléaires, il faut encore plus de temps. Donc on a pris beaucoup de retard et on va le payer pendant pas mal de temps. Il faudra pas mal de programmes de chasse au gaspillage pour corriger la situation.
Oui, je me souviens, chasse au gaspillage, c'est là où on décide que l'ORTF s'arrête à 23h, qu'on roulera moins vite sur les routes. Et c'était toujours l'histoire de... ça, son nom m'échappe en 56, là. Il y a le civisme et le cynisme. J'en appelle au civisme, mais si le civisme ne fonctionne pas, c'est le cynisme derrière, avec rationnement, et notamment signal prix, d'ailleurs. Son nom va me revenir. Vous êtes d'accord avec le réquisitoire, Jean-Pierre Petit ?
Oui.
Simplement, ce que je dirais, c'est que les chiffres de consommation de gaz dans l'Union européenne sont plutôt satisfaisants hein, depuis quelques mois.
C'est-à-dire ça veut dire quoi, satisfaisant?
Bah, c'est-à-dire qu'il décélère très sensiblement, puisqu'il y a l'objectif de l'Union européenne de faire baisser la consommation de gaz à hauteur de 15% d'ici le 31 mars. Et là, pour l'instant, sur les chiffres qu'on a, on n'arrivera peut-être pas à 15% en moyenne dans l'Union européenne, mais on n'est pas très loin. Aux Pays-Bas, en Allemagne, etc., ça se passe pas mal. Et puis sur les stocks, il y avait un objectif de l'Union européenne d'arriver à 90% de stockage au 1er novembre, et je pense même qu'on va les dépasser. Hein. On va être pas loin de 95.
Oui, mais...
Donc, oui, non, mais voilà, je
dis ça. On ne pas l'hiver. Hein,
ah non, et d'ailleurs, il faut le rappeler, parce que il y a des investisseurs qui me disent souvent, bah, regardez avec les stocks qu'on a, oui, sauf que les stocks, ils couvrent à peu près entre 25 et 28% de la consommation moyenne sur la période de clé pour le gaz, qui est entre le 1er octobre, c'est-à-dire maintenant, et le 31 mars, et pas plus. Ce qui fait d'ailleurs que c'est un problème qui se pose pas que pour l'hiver 2022-2023, mais très probablement
aussi. C'est pour ça que je dis on passe l'hiver peut-être, et après.
Et après, oui, parce que si on vide les stocks au 31 mars, on va jamais réussir à les reconstituer d'ici pour le prochain hiver. Et donc, c'est un sujet général. Je vois bien, je comprends bien l'argument de Thierry Breton, mais c'est vrai que si on avait un peu moins, fait un peu moins d'erreurs en matière de stratégie énergétique, on serait beaucoup mieux en position aujourd'hui, la France en particulier, de critiquer le plan allemand. Et alors, on est évidemment mieux protégé que l'Allemagne, globalement parlant, avec l'Espagne en Europe. Mais il est bien évident que si on avait poursuivi les 10 dernières années sur le programme nucléaire, il est bien évident qu'on aurait une marge de manœuvre beaucoup plus forte vis-à-vis de l'Allemagne. Et on pourrait critiquer beaucoup plus le plan allemand. Mais malgré tout, je pense qu'on va avancer là-dessus parce que von der Leyen, par exemple, dans son discours, elle dit bien que, par exemple, dans l'esprit d'ailleurs, hein, de l'unité européenne au moment de Covid, par exemple, on va regrouper les commandes d'achat de gaz à la Norvège ou à d'autres fournisseurs de gaz naturel.
Pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour en arriver là?
Ah oui, mais c'est pareil hein, pour les émissions de dette commune. Hein, la première fois que c'est arrivé, c'est à l'occasion de Covid. Et là, bah, on pourrait imaginer quelque chose qui aille dans le même sens. Voilà.
Philippe Eskenazi, je sais pas comment vous regardez ce plan sobriété par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que c'est la facture de nos incuries, de nos erreurs stratégiques de politique énergétique en France, de notre absence de vision européenne de l'énergie, des choix politiques allemands qui, aujourd'hui, se retournent tel un boomerang contre la première économie de la zone euro?
En tout cas, le plan de sobriété en lui-même est déployé dans tous les pays européens. Vous savez, même un pays comme la Suède qui n'a aucun problème énergétique. Ils ont une énergie blanche, enfin de l'hydroélectricité largement suffisante, du nucléaire, aucun problème énergétique. Et pourtant, ils font un plan de sobriété qui est encore plus ambitieux que le plan français, dans un objectif de participer, en quelque sorte, à cette sobriété globale européenne pour que l'ensemble de l'économie européenne passe l'hiver, et aussi pour réduire les coûts, puisque, étant donné les coûts de l'énergie, quelle que soit l'énergie, on cherche à réduire les coûts. Donc, la question de sobriété, c'est pas l'erreur de tel ou tel pays. Il faut pas dire que les Français ont mal fait les choses, et c'est pour cela qu'il y a une sobriété. Non, il y a une politique européenne qui est potentiellement défaillante et qui était bien trop dépendante de la Russie. Il y a le choc de cette guerre et l'acceptation des prix énergétiques qui s'envolent, qui explique le plan de sobriété tel qu'il est là aujourd'hui. Mais c'est pas lui qui va nous amener vers les éléments de transition énergétique. Et là, je rejoins tout à fait le fait très en retard.
Ça peut participer. Le fait de tous les pays décident de mettre de la sobriété dans leur mode de fonctionnement, ça peut être une décision liée à l'hiver 2022-2023 qui va s'installer dans la durée et changer les comportements. Alors après, si le signal prix revient à son niveau normal, à ce moment-là, les accélérations comportements sont possibles. C'est l'espèce d'idée que ce que l'on vit est tellement violent que finalement la transition énergétique va s'imposer quasi toute seule.
Les choses
car on n'a plus le choix.
Si aisé que cela. C'est-à-dire que là, on va essayer d'avoir une marche. Alors, peut-être qu'on va avoir une marche de 10% de sobriété. De diminution de nos émissions, de l'usage des énergies. Alors qu'on doit faire une diminution de l'ordre de 40, voire 50% sur l'ensemble du continent européen. Donc, on ne pourra pas, c'est pas là, on aura peut-être fait notre marche de 10%, mais c'est pas ça qui va enclencher véritablement une démarche qui nécessite là une véritable politique énergétique, une vraie volonté de transition. Et sur ce plan-là, c'est clair que la France est en retard pour une série d'erreurs de choix en partie politique, en grande partie technocratique, voilà, notre technocratie a dysfonctionné
plus dysfonctionné que Jean-Bernard Lévy, probablement.
Oui. Mais en tout cas, il y a donc deux sujets, je pense, très différents, la transition de long terme et ce qui se passe là pour cet hiver.
Vous pensez, enfin, je vous laisse réagir, Denis Père, ce que nous faisons là, ça n'est pas une politique de transition énergétique, nous dit Philippe Askenazy.
Pas suffisamment ambitieuse. Effectivement, la machine administrative française, elle est bloquée. Elle n'est pas bloquée d'ailleurs que dans ce domaine-là. Mais une des conséquences, c'est que la transition énergétique, effectivement, n'avance pas parce que les projets ne sortent pas, mettent un temps fou, effectivement, à sortir. Pour quand même nuancer un tout petit peu le propos sur les erreurs françaises, il y a quand même aussi un problème dont on n'a pas beaucoup parlé, finalement, et qui me rend plutôt un peu optimiste à court terme, qui est un problème de faute à pas de chance. C'est-à-dire que le problème, quand même, c'est qu'en 2021, on a découvert ce problème de corrosion sous contrainte dans les centrales nucléaires, qui a mis à l'arrêt un certain nombre de centrales. Je ne crois pas que ce soit un problème de manque de maintenance ou un problème de laisser aller du côté de l'air. Je pense que c'est vraiment, enfin ce qu'on comprend des experts, c'est que c'est vraiment un problème de pas de chance. Et ça, c'est quelque chose qui peut se résoudre quand même et qui peut faire que l'hiver prochain, on n'aura pas la moitié du parc à l'arrêt, mais on aura une bonne partie qui fonctionnera, en tout cas, on peut l'espérer. Après, la crise qu'on vit aujourd'hui, elle montre aussi un autre aspect sur lequel on n'a pas assez insisté. Je pense, c'est que l'énergie, c'est pas un business classique, quoi. L'énergie, c'est un business ultra complexe et ultra stratégique et ultra géopolitique. Et on l'a complètement sous-estimé, les Allemands, les premiers, avec une politique mercantiliste, court terme, il y a du gaz russe pas cher, on va le chercher, et on construit une stratégie à 30 ans là-dessus, avec une dépendance folle à la Russie. Mais on le fait dans d'autres domaines aujourd'hui, dont on n'a pas encore vu les conséquences. En matière, par exemple, de véhicules électriques. Qui a fait la stratégie du véhicule électrique, même mondial? C'est Elon Musk. C'est un entrepreneur génial qui, à un moment donné, a pris une décision technique d'ingénieur, a dit le moteur électrique propulsé par une batterie, c'est ce qu'il y a de mieux au plan technique parce que le rendement est meilleur qu'un moteur propulsé par hydrogène, par exemple, où le rendement est nettement moins bon. Donc, je choisis de m'orienter vers le véhicule électrique propulsé par une batterie lithium-ion. Et donc, derrière, comme ça a marché, tout le monde a suivi, y compris les États, y compris l'Union européenne, qui a forcé une technologie sans voir du tout les conséquences géostratégiques, justement.
Économique, sociale, c'est hallucinant.
Économique, sociale et géostratégique. Géostratégique, oui. Nicolas. On est en train, le lithium, vous n'avez que 4 pays qui produisent 95%, les sources, c'est l'US Geological Survey, qui produisent 95% du lithium mondial. L'Australie, le Chili, l'Argentine et la Chine pour 25%. 95%. Et les réserves, c'est 84% dans ces pays-là. Donc on est en train de se mettre là dans la main de ces 4 pays. L'OPEP, c'est 14 pays qui arrivent à se mettre d'accord et qui ne représentent que 41% de la production mondiale. Là, vous avez 4 pays qui représentent 95% de la production mondiale et 94% des réserves. Imaginez l'OPEP du lithium qui est en train de se créer. Cobalt, vous n'avez qu'un pays. La RDC, qui représente 70% de la production mondiale, qui a un monopole de fait. Alors, on commence à prendre du nickel pour se diversifier, mais le nickel, c'est pareil, il y a 3 ou 4 pays qui contrôlent l'essentiel de la production mondiale. Donc, c'est des sujets sur lesquels, là aussi, on a manqué de réflexion géostratégique. Puis, il y a la dépense à la Chine, bien sûr. Les cellules de batterie lithium-ion, elles sont fabriquées à 80% en Chine, et encore à 70% dans 10 ans, d'après la plupart des experts. On crée des usines de batterie en Europe, c'est bien, mais c'est des usines tournevis. L'essentiel, le cœur de la batterie, c'est la cellule, elle est fabriquée à 80% en Chine. Et la Chine contrôle aussi tout le processus de raffinage en amont. La Chine raffine entre 75 et 80% du nickel, du cobalt et du lithium aussi. Donc là encore, il y a eu une absence de prise en compte de données géostratégiques par nos décideurs politiques, en particulier européens, qui ont dit le véhicule électrique à base de batterie lithium-ion, c'est la solution, vous devez tous vous y mettre. C'est extrêmement préoccupant. Il y a d'autres solutions, il y a l'hydrogène, on commence à y venir.
Il n'y a pas que le lithium, hein. on va regarder le gaz naturel aujourd'hui, c'est un peu plus urgent, même d'une certaine manière. Les réserves les plus importantes, c'est où? C'est en Iran, Qatar. Turkménistan, Qatar. Le Qatar, ça va à peu près. Mais alors, Turkménistan, Iran, alors là, il y a un problème géopolitique majeur. Voilà.
Le problème, c'est que c'est inextricable ce que vous décrivez.
Non, mais ce qui est intéressant.
Alors, on peut se désespérer sur les choix passés qui ne seraient pas bons, mais on y est, là. 2035, on ne vend plus de voitures thermiques.
Et les capacités de liquéfaction aussi. Il faudrait revenir là-dessus.
Pour le GNL.
Parce que ce qui nous a sauvés cette année.
Oui, c'est la livraison de GNL.
C'est le fait que les importations de LNG qui viennent des États-Unis, du Qatar et un peu d'Australie, etc., fondamentalement, elles ont explosé. On a plus de 70% sur un an. Quelles sont les capacités de liquéfaction aux États-Unis? Actuellement, elles sont assez limitées. Hein, voilà.
Et même les capacités de transport
alors,
du GNL.
Il y a quand même un pays d'Europe de l'Ouest qui a des capacités gazières. C'est un pays ami, pacifique, etc. Ça s'appelle la Norvège. Si vous regardez bien les réserves de Norvège, compte tenu de la demande additionnelle là qu'elle subit, j'en dis, les réserves de Norvège vont commencer à s'épuiser à partir des, enfin s'épuiser pas totalement, mais progressivement à partir de 2024-2025, compte tenu de la demande extrêmement forte qui lui est adressée. C'est aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans la remarque de Denis, là, c'était sur la Chine. On se posait la question dans les années 90, dans les années 2000, pourquoi ils avaient cette stratégie de protéger leur et de développer leurs ressources énergétiques. Surtout dans les années 90, ça baissait. Dans les années 2000, ça montait. Eh bien, c'est parce que eux, ils avaient une vision de long terme.
Absolument. Mais voilà. C'est le monde de demain que vous nous décrivez, parce qu'on imagine bien dans ce que vous avez décrit, Denis Père, le monde de demain, c'est pas rassurant. Et ce que vous dites là sur effectivement cette très forte dépendance et ces choix politiques qui se sont imposés aux industriels, ce ne sont pas des choix pris par les industriels. Lisez encore une fois l'interview croisée dans le Parisien de Luca De Meo de Renault et de Carlos Tavares. Ils disent la même chose que vous. Alors. Poliment, oui. Compte tenu de leur position, mais on sent bien que...
Et bien sûr. C'est sûr, on leur a imposé une technologie, alors que bon, vous avez d'autres solutions, comme l'hydrogène, qui est en train d'émerger. Mais, et sur le véhicule électrique, il faut bien comprendre qu'effectivement, les Luca De Meo et Carlos Tavares, ils sont face à des concurrents chinois qui ont des normes sociales et environnementales qui ne sont pas les nôtres, qui font travailler les ouvriers forcés ouïghours. Il n'y a pas de syndicat libre en Chine, il n'y a que un syndicat officiel présidé par un membre éminent du Parti communiste chinois. Quand vous avez quelqu'un qui est confronté à des problèmes des ouvriers sur les chantiers de Shanghai ou de Pékin qui souffrent de silicose, quelqu'un qui veut les aider, il est mis en prison. Il est mis en prison. Les salaires sont difficilement payés. Quand ils sont pas payés, il y a eu un livreur Deliveroo l'année dernière qui a fini par s'immoler par le feu parce que ça faisait 6 mois qu'il n'était pas payé et qu'il avait aucun recours. C'est ça la Chine. Et c'est ce contexte social contre lequel vont se battre Renault et PSA. Bonne chance. Bonne chance. Ça va être compliqué. D'où mon livre, Le Contrat Mondial, pour proposer un rééquilibrage des normes sociales et environnementales.
On a 2020. Si vous voulez réagir à ce qui a été dit, Philippe, parce que sinon, j'avance. Mais
Je pense qu'il y a certains éléments où il ne faut pas trop accuser les politiques. Il y a eu quand même un discours pendant des décennies que la mondialisation était porteur de toutes les solutions. C'est-à-dire qu'on pouvait diversifier les sources d'approvisionnement et que si on se retrouvait dans des situations où on était dépendant d'un acteur, cet acteur était aussi dépendant de nous comme consommateurs, ça devait être porteur, il y avait toute une série de discours que c'était porteur de paix. Il faut voir qu'on était, après la chute du mur de Berlin, dans cette vision de fin de l'histoire, en quelque sorte, d'une mondialisation heureuse qui, de toute manière, à travers le commerce, devait nous empêcher d'être dans une situation de guerre. Parce que s'il y avait un conflit, nécessairement, les deux acteurs perdraient trop. Et donc, on n'irait pas à la guerre. Et c'est cette sorte de naïveté globale, mais qui n'est pas qu'une naïveté politique, elle était très largement partagée dans ce que une partie de la gauche critiquait comme le mondialisme, en quelque sorte. Et donc, il faut voir cette idéologie dominante, et ce n'est pas uniquement des choix des politiques. Et quant aux entreprises, il y a quand même aussi des problématiques d'anticipation. Beaucoup d'acteurs industriels, automobiles, ont tout fait pour freiner le passage à l'électrique jusqu'à ce que ça leur soit imposé. Et entre-temps, ils n'ont pas fait les investissements qu'il fallait. Et on n'a pas suffisamment fait de recherche mondiale sur d'autres types de batteries. Il y a des chercheurs fondamentaux qui essayent d'obtenir, qui ont mis des décennies avant d'obtenir des crédits pour faire des recherches sur des batteries au sodium. Alors le sodium, c'est du sel, ce qu'on trouve dans la mer. Là, il n'y aura plus de problème de dépendance aux uns ou aux autres. Je ne sais pas à quel horizon on va arriver, mais vous voyez, il faut pas non plus dire que ce qu'il appelle la vision que l'on a aujourd'hui est nécessairement insurmontable, que c'est nécessairement la faute des politiques. Je crois que voilà, il y a eu une erreur générale qui aujourd'hui effectivement on paye. Alors le on, c'est plutôt les populations d'ailleurs.
On marque une pause. Dans un instant, j'avancerai avec ces deux sujets liés finalement. En résumé, c'est la fête est finie. C'est ce que dit l'INSEE dans sa note publiée hier. Autrement dit, le merveilleux rebond d'après Covid, c'est bon, on l'a consommé, on l'oublie, c'est du passé. On va démarrer 2023 avec 0,2 d'acquis de croissance, quand on a démarré 2022 avec 2,3 d'acquis de croissance. Et puis le FMI qui nous dit, Et puis je vous demanderai quand même, Jean-Pierre Petit, pourquoi vous êtes si sympathique avec les Allemands et leur plan à 200 milliards? Parce qu'il est quand même pas super bien accueilli en Europe. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.